Voilà. Alors, effectivement, aujourd'hui, on va parler de Luc. On va continuer l'histoire dans l'évangile de Luc. Et l'histoire d'aujourd'hui, elle se passe à Jéricho. Et c'est pour ça que je vous ai partagé mon écran. J'ai aussi mis les références qui sont concernées par la prédication d'aujourd'hui, mais ensuite, je vais les enlever. Alors, sur cette carte, vous avez Jéricho. Et vous voyez que c'est beaucoup plus au sud que la Galilée. En fait, Jésus, il est en train de monter à Jérusalem, mais sur la carte, en fait, le chemin, il va plutôt sur la descente. On dit toujours monter à Jérusalem. Mais il est parti de la Galilée, et puis il est passé par des villes, par des villages, et là, il est arrivé à Jéricho. Jéricho est à 25 kilomètres de Jérusalem. Est-ce que vous voyez? Alors, je ne sais pas pour ceux qui sont à la maison, mais peut-être vous pouvez mieux voir, mais pour ceux qui sont à Nord-Sensèze, Jéricho, c'est ici. Et puis, Jérusalem, je l'ai souligné en rouge, c'est ici. Donc là, il y a une journée de marche, 25 km, environ 8 heures. Et donc, Jésus arrive à Jéricho après plusieurs jours de marche, on ne sait pas combien, on ne sait pas quelle ville, quel village il a traversé, mais il a fait tout ce chemin-là. Et Jéricho, c'est une ville qui avait été détruite, mais elle est partiellement reconstruite. Alors voilà, il y a un côté détruit, un côté reconstruit, mais en fait, ce qui est important, c'est que c'est une ville qui est dans une oasis. Et dans cette oasis, il y a des dattiers, la culture des dattes. Il y a tout un commerce qui se fait parce qu'il y a aussi des épices et il y a aussi du vin. Ce qui fait qu'il y a un commerce florissant. Et là, sur la carte, là où est Jéricho, c'est un carrefour. C'est un carrefour où les gens qui viennent de la Pérée, ils sont obligés de passer par Jéricho, ils traversent le Jourdain, pour ensuite descendre, enfin monter, puisqu'on dit monter sur Jérusalem, aller en Judée ou même aller jusqu'en Égypte. C'est un carrefour, il y a toutes les caravanes qui vont là, qui passent par là. Donc, il y a beaucoup de monde. C'est une ville importante au niveau économique, au niveau administratif et militaire. Donc voilà où se passe l'histoire d'aujourd'hui. Alors avant d'aller plus loin, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir frustré, perdu, insatisfait dans votre vie ou dans un domaine de votre vie? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir limité ou alors de vous sentir exclu, mis de côté, à part, d'une façon générale ou alors dans certains domaines, quand je suis dans ce domaine-là de ma vie, il y a un truc qui ne va pas? Eh bien, c'est justement là que Jésus veut venir nous rencontrer. Jésus, s'il est venu sur terre, Jésus qui est Dieu, s'il s'est incarné pour partager notre condition humaine et venir nous restaurer, restaurer nos vies, c'est pas pour venir nous rencontrer là où tout roule. C'est pas pour nous rencontrer là où tout est propre en ordre, où tout va bien. Il est venu pour nous rencontrer là où ça coince, là où ça bloque, là où on est exclu, là où on est frustré, là où il y a quelque chose qui nous crée de la souffrance, de la frustration. Jésus est venu nous chercher pour nous sauver. Alors je vous propose de lire le texte aujourd'hui dans Luc 19, les versets 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu, et Zachée était perdu. Pourtant, Zachée, il était riche. Il était abondamment riche, si on prend le mot qui est utilisé. Il avait une abondance de biens matériels. Il était juif. Zachée, ça veut dire, enfin, c'est le diminutif de Zacharie, c'est un prénom hébreu, qui veut dire être pur ou celui qui est pur. Alors, c'est assez ironique pour Zachée de s'appeler celui qui est pur, parce qu'en fait, Zachée, il travaillait pour l'ennemi. Donc, il était considéré comme un traître. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il était chef des publicains ou chef des collecteurs d'impôts. N'oubliez pas qu'on est sous l'occupation romaine. Donc, ces impôts, ce n'est pas pour le peuple juif. Ces impôts, ces taxes, les droits de douane, et il y en avait sûrement plusieurs à Jéricho parce qu'il y avait un commerce florissant, cet argent, il servait à renforcer l'Empire romain, il servait à construire les palais des empereurs et des chefs, et il servait à construire, entretenir les temples des idoles. Et Zachée, en tant que chef des publicains, il a, excusez-moi l'expression, pactisé avec l'ennemi. Il a dû acheter un contrat avec les Romains pour pouvoir être chef des publicains, chef de ceux qui récoltent les impôts. Donc, en fait, il a profité de la situation pour avoir son poste. Mais en plus de ça, les collecteurs d'impôts, ils étaient réputés pour en prendre un peu plus que nécessaire. Donc, c'était comme une espèce de vengeance, une vengeance envers les Romains. Puisque eux, ils nous occupent, eh bien, nous, on va prélever plus d'argent et on en met une partie dans nos poches. Sauf qu'ils prélevaient de l'argent sur le dos de tout le monde et aussi sur le dos de leur propre peuple. Voilà pourquoi ils n'étaient pas aimés. Et voilà pourquoi ils étaient considérés comme des traîtres, comme des malhonnêtes. Et c'était à un tel point que les gens qui avaient cette profession-là n'avaient pas le droit, lors d'un procès, de témoigner. Ils n'avaient pas le droit d'être juges et ils n'avaient pas l'accès à la synagogue. Ils étaient exclus de leur propre communauté. C'étaient des gens mal vus. Alors Zachée, qui était riche, en fait, il était extrêmement pauvre. Zachée, il était détesté et il était exclu. Alors aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'occupant romain. On n'est plus sous l'occupation romaine. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y en a aussi une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'on a toujours un ennemi et que ça nous arrive bien souvent, malgré nous, sans même nous en rendre compte, de pactiser avec lui, de faire des contrats avec lui, de travailler pour lui, de nourrir l'ennemi. Alors bien sûr, ça peut se faire de manière matérielle. Là, c'est plutôt de façon consciente, de façon volontaire. Si on gère mal notre argent, si on extorque de l'argent, si on s'enrichit sur le dos des autres, enfin, il y a toutes sortes de façons de faire où on le fait de façon consciente. Et puis là, on travaille clairement pour l'ennemi. Mais il y a d'autres manières de faire dont on ne se rend pas forcément compte. C'est par exemple notre propre justice. C'est notre prétention. C'est notre orgueil. C'est quand on se justifie pour cacher, pour sauver la face. C'est quand on se trouve des trucs pour pouvoir tenir debout, pour sauver les apparences. C'est toutes ces fausses sécurités sur lesquelles on s'appuie, sur lesquelles on compte. Surtout dans les domaines où il y a de la souffrance, eh bien, on va trouver des trucs pour pouvoir aller de l'avant quand même. C'est une sorte d'instinct de survie. Mais on travaille pour l'ennemi quand c'est par nos propres forces qu'on fait ces choses-là, plutôt que laisser Jésus entrer dans ces choses-là et nous restaurer comme lui le veut, parce que lui, il nous connaît tellement mieux que nous-mêmes qu'il sait comment venir nous restaurer, comment venir nous rencontrer. La question qu'on peut se poser, c'est, dans ma situation, là où justement j'ai des frustrations, est-ce que j'ai une part de responsabilité? Est-ce que Jésus a déjà eu sa place? Est-ce qu'il a déjà eu accès à cet endroit-là? Zachée, lui, ce n'est pas écrit comme ça dans le texte, mais on peut imaginer qu'il vit dans une espèce de frustration. Il a tout ce qu'il veut, mais il y a un vide à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est difficile. Ben déjà, d'être exclu, de ne pas être aimé, c'est extrêmement difficile. Et il arrive à un point où il en a marre. Il arrive à un point où il se dit, mais cette fois, il faut que ça s'arrête, il faut une solution. Et qu'est-ce qui se passe? Il entend parler que Jésus va traverser la ville où il habite. Alors Jésus, c'est qui? Jésus, c'est ce rabbi, cet enseignant qui est suivi par une immense foule, qui est parti de la Galilée, qui a fait des miracles, qui va dans les synagogues, qui est en opposition avec les pharisiens. Donc il se fait toujours prendre comme en défaut, mais lui, il a toujours raison. Il a un discours révolutionnaire. Mais en plus de ça, Jésus, il a transformé des vies de gens qui avaient les mêmes problèmes que lui. Et là, je vais vous le lire dans Luc, au chapitre 5, les versets 27 et 28. Luc 5, 27 et 28. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain, collecteur d'impôts, nommé Lévi, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi !» Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de publicains, collecteurs d'impôts, et d'autres personnes étaient à table avec eux. Voilà déjà une fois que Jésus appelle quelqu'un, et ce Lévi, en fait, c'est Matthieu, qui est devenu disciple de Jésus, l'un des 12, qui est devenu apôtre de Jésus-Christ. Et dans Luc 15, les versets 1 et 2, tous les publicains, collecteurs d'impôts, et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Alors Zachée, il se dit, « Waouh, ce gars, il n'a pas peur d'aller chez des gens qui sont détestés et malhonnêtes comme moi. Il faut que je vois à quoi il ressemble. Il faut que je vois qui c'est. » Alors, il se met en route. Il se met en marche. Et vous connaissez l'histoire. C'est une des premières histoires, je crois, qu'on nous raconte à l'école du dimanche quand on est enfant. Tout le monde connaît l'histoire. Zachée, il veut voir Jésus, mais Jésus, il est entouré d'une grande, grande foule. Et puis Zachée, il a un gros handicap, c'est qu'il est petit. Et croyez-moi, je sais ce que ça veut dire d'être handicapé dans certaines situations quand on est trop petit. Un jour, on allait au Paléo avec Reed, ça fait des années. Et puis quand on a regardé un concert où il y avait la grande scène, c'est à l'extérieur, on était sur le talus, un peu en hauteur. Alors moi, j'avais une super vision. C'était loin, mais je voyais. Mais après, on allait voir un concert de reggae sous tente, debout. Alors, je vous passe le truc, hein, parce que c'était à l'époque où ça fumait encore pas mal, et pas que de la cigarette, dans une tente. Et puis, les gens étaient debout, et moi, j'avais le dos des gens ici, parce qu'on était beaucoup. Je ne suis pas sûre que j'ai tenu 5 minutes. Je suis sortie, ce n'était pas possible. Ça servait à quoi? Eh bien, Zachée, c'est pareil. Il veut aller vers Jésus. Il s'approche de la foule et il est trop petit, il a la taille d'un enfant. Alors comment faire? Eh bien, il se met à courir. Il se met à courir avec les enfants parce qu'il n'y a pas seulement des adultes dans cette foule, mais il y a aussi des enfants. Tout le monde, c'est la joie, c'est la fête, c'est les interrogations. C'est un peu, moi je pense à la braderie. Quand il y a le cortège qui arrive, ben, ils font quoi les enfants? Ben, ils vont trouver des trucs pour aller plus haut, pour prendre de la hauteur, pour pouvoir voir ce qui se passe, voir le cortège. Alors Zachée, il court avec ses enfants, et puis paf, il y a un sycomore, les enfants, ils grimpent sur le sycomore, et puis Zachée aussi. Et comme ça, ils peuvent voir Jésus. Parce que les sycomores, c'est des gros arbres imposants, et ils ont des grosses branches qui commencent déjà très, très proches du sol. Le tronc, il est assez court. Ce qui fait qu'un arbre sycomore qui a déjà un certain âge, il peut accueillir plusieurs personnes dans ses branches. Mais imaginez quand même un tout petit peu la scène. Zachée, c'est le chef de la mafia. Zachée, il a ses lunettes noires, il est en costard-cravate. Tout le monde le connaît, il est avec des gamins, il court comme un gamin et puis monte sur son arbre et puis regarde Jésus. Vous imaginez un peu la scène? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Zachée? Zachée, il est redevenu comme un enfant. Luc 18, on revient un tout petit peu en arrière. Luc 18, les versets 15 à 17. On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. » Et le chapitre après, Zachée, il met ça en pratique. Le chapitre d'après, Zachée, il abandonne toutes ses sécurités. Il s'en fiche du qu'en dira-t-on. Il s'en fiche du regard des gens. Mais il s'en fiche, il les met à des années-lumière de ça. Lui, il veut voir Jésus. Alors, il redevient comme un enfant. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Ce n'est pas difficile pour Jésus de voir Zachée, et ce n'est pas non plus difficile de savoir comment ce qu'il s'appelle. C'est vrai qu'on a déjà vu plusieurs cortèges, hein, on a vu déjà plusieurs situations dans cet évangile de Luc où Jésus, tout à coup, paf, il pose son regard sur une personne. Il y a eu des fois, c'était vraiment rempli du Saint-Esprit. Tout à coup, quand il y a eu le convoi funèbre, il a su, cette femme, elle est veuve, c'est son fils unique. Et puis, il a fait la résurrection de cet enfant. Mais là, moi, je vous dis, je ne pense pas que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit, ce gars sur son arbre, il s'appelle Zachée. Mais il a entendu la foule. Ça devait fuser de toutes parts. Mais regardez Zachée, est-ce qu'il a l'air bête? Mais regardez là, il est en costard-cravate avec ses lunettes noires. Il est avec des gamins dans un arbre. Mais il a peur de rien. Et ça fuse dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Ben, il regarde ce qui se passe. Et puis, il voit Zachée. Sauf que lui, il n'est pas dans la même mentalité. Là, il est tellement rempli du Saint-Esprit. Il est tellement proche du Père qu'il discerne. Ah, d'accord, aujourd'hui, c'est chez lui que ça se passe. Celui que je vais transformer, c'est lui. C'est au travers de sa vie que la manifestation du royaume de Dieu va pouvoir se passer. C'est là aussi que je vais aller dormir, parce que demain je continue ma route pour Jérusalem. Mais c'est là que je suis envoyée. Alors c'est pour ça qu'il l'appelle Zachée. Dépêche-toi de descendre. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut, c'est une nécessité. Il n'y a pas le choix. Chaque fois que Jésus utilise cette expression « il faut »,« il fallait », »,« ne fallait-il pas », dans l'évangile de Luc, cette expression, elle revient extrêmement souvent. Quand il dit « il faut que je vienne » ou « il faut que », ça veut dire qu'il y a une manifestation du royaume de Dieu qu'il est en train d'annoncer. Il est en train de prouver que le royaume de Dieu est venu sur la terre. Il faut que je vienne chez toi pour que le royaume de Dieu se manifeste dans ta vie. C'est une nécessité. S'il n'y a pas ça, ta vie, elle n'est pas transformée. Mais il lui dit aussi, dépêche-toi. Dépêche-toi parce que tu dois faire des préparatifs. Je viens chez toi. Tu ne peux pas juste m'accueillir comme ça. Allez, va préparer ta maison. Va préparer ta demeure pour que je puisse venir. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Parce que là, ton cœur, il est prêt, alors ne reviens pas en arrière. Ne laisse pas le temps de revenir en arrière. Ne laisse pas du temps à ta mentalité de reprendre le dessus, de réfléchir. Mais viens, viens, continue, continue dans ta lancée. Grouille-toi, ça ne peut pas attendre. Et Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Il nous dit la même chose hein, aujourd'hui. Je crois que ce qu'il est en train de nous dire, c'est ne fais pas seulement que m'observer. Tu as entendu parler de moi. Tu lis tout ce qui me concerne régulièrement. Tu connais tout. Tu sais tellement de choses sur moi. Mais maintenant, ne fais pas que me regarder. Laisse-moi avoir une relation avec toi. Laisse-moi entrer chez toi. Laisse-moi entrer dans ces domaines où tu es frustré, dans ces domaines où tu es limité, dans ces domaines où tu es dans une souffrance, dans quelque chose qui ne te satisfait pas. Ne te contente pas de me regarder. Laisse-moi visiter ton problème. Zachée descend de son arbre. Et on pouvait s'y attendre. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Je vous ai dit la dernière fois, plus on arrive vers Jérusalem, moins dans la foule on peut séparer les pharisiens et puis ceux qui sont vraiment accrochés aux paroles de Jésus pour avoir leur vie transformée. Tout à coup, tout se confond, la foule, elle commence à avoir toute la même mentalité, on ne sait plus trop. Ils sont tous un peu religieux, ils ont tous cette même mentalité. Ben là, il n'y a pas marqué qui, il y a marqué tous, toute cette foule en fait. Il y avait beaucoup de monde qui suivait Jésus, mais toute la foule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle condamne. Regardez, il est allé chez le chef de la mafia. Il est allé demeurer chez Zachée. Et cette expression, elle est vraiment lourde de sens. Parce que le fait de rester chez quelqu'un, ça voulait dire partager ses péchés. Donc en fait, la foule était en train d'accuser Jésus d'aller faire le mauvais commerce, le même commerce que Zachée faisait en tant que chef des publicains. Quel scandale! Pourtant, ils n'avaient pas entièrement tort. Pas dans le sens où Jésus a péché, ce n'est pas du tout ça. Mais Jésus est venu partager quelque chose qui a à voir avec les péchés de Zachée. Jésus, il a partagé notre condition humaine pour faire, ce n'est pas vraiment un partage, mais faire un échange. Mais il a partagé sa vie pour venir dans nos impuretés, dans nos infidélités, dans tous nos problèmes, dans nos péchés. Jésus, il est venu pour partager sa vie, pour que nous, on puisse mettre toutes ces mauvaises choses en lui et que lui nous donne sa vie en échange. C'est ce partage-là qu'il est venu faire. C'est pour ça qu'il devait demeurer chez Zachée. Et c'est pour ça qu'il est en route pour Jérusalem. Mais Zachée, lui, il ne fait pas attention. Il n'écoute pas ce que la foule dit. Il accueille Jésus. Et voilà ce qu'il lui dit. Il se tient debout devant Jésus. Debout, c'est-à-dire en position de force, de détermination, de volonté. Il est debout devant Jésus et il affirme quelque chose. « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Zachée est en train de faire référence à la loi de Moïse. Il est en train de faire référence à la loi qui disait qu'il fallait soutenir les pauvres. Il dit, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. La loi de Moïse, la loi de Dieu, l'éthique du royaume de Dieu qui est toujours actuelle, c'est de s'occuper des pauvres, des veuves, des orphelins, des étrangers, des gens qui sont vulnérables, qui sont en fragilité. Mais, il dit, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et ça fait référence à cette loi de Moïse qui disait, si quelqu'un a volé par inadvertance, voilà ce qu'il doit faire au moment où il va rendre les choses. Et s'il a volé volontairement, eh bien, il devra rendre ce qu'il a volé en majorant cette chose-là. Et je vous ai mis trois références tout à l'heure, mais je vous lis juste dans Exode 22, les versets 1 à 4. Exode 22, les versets 1 à 4. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction, qu'il soit frappé et meure, on ne sera point coupable de meurtre envers lui, mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Mais il est question de 5 bœufs et de 4 agneaux pour un agneau. Alors quand Zachée dit « Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je rendrai au quadruple », il est en train d'avouer en fait. Il dit « Mais bien sûr, j'ai volé. Je suis en tort. Donc, je vais appliquer la loi. Je vais rendre au quadruple. Je reconnais mon péché. » Zachée, il est en train de se repentir. Son cœur, il a complètement changé. C'est ça une conversion. C'est ça la repentance. C'est de se rendre compte qu'on était sur le mauvais chemin et on change complètement pour aller sur le bon chemin. Voilà ce que la vie de Jésus a fait en lui. Son cœur a été convaincu. Le royaume de Dieu est entré dans son cœur. Alors Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Jusqu'à maintenant, Zachée, fils d'Abraham naturel, il était juif, il était hébreu, il était exclu de sa communauté. Mais là, Jésus, devant toute cette foule qui critique, il dit « Celui-ci aussi, comme vous tous, est un fils d'Abraham. Vous êtes tous de la même communauté. Vous avez tous la même identité. » Il a dit la même chose quand on a parlé de la femme courbée. Il disait « Et cette femme qui est une fille d'Abraham, ne fallait-il pas qu'elle soit libérée le jour du sabbat ? Ne fallait-il pas ?» Eh bien, c'est la même chose pour Zachée. Il est aussi fils d'Abraham, mais de fils d'Abraham naturel, il est devenu fils d'Abraham spirituel. Comme chacun d'entre nous, puisqu'Abraham est le père des croyants, comme chacun d'entre nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous sommes fils d'Abraham spirituellement. Et c'est cette identité-là que Zachée a reçue. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée était perdu. Mais son cœur qui s'est tellement retourné, il a tellement bien réussi à accueillir Jésus comme un enfant que sa vie a complètement changé. Que le royaume de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu sont entrées dans son entendement, dans sa mentalité. Et il a complètement changé de vie. Ce dernier verset, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu », c'est toute la synthèse de l'évangile de Luc. Si vous devez dire, mais Luc, il parle de quoi? Qu'est-ce qu'il expose? Qu'est-ce qu'il veut démontrer? Eh bien, c'est ce verset-là. Jésus a pris le corps d'un homme, d'un être humain, Dieu, créateur du cosmos, il est venu mettre ses pieds sur la terre. Il a partagé nos limitations, nos émotions pour nous chercher et pour nous sauver. Il est venu pour venir au plus profond de nos problèmes, de nos douleurs, pour nous en libérer. Voilà ce que Jésus est venu faire. Il n'est pas venu pour des gens en bonne santé, mais pour des malades. Il n'est pas venu pour des gens sauvés, mais pour des gens perdus. Alors aujourd'hui, s'il y a un domaine de notre vie où on a besoin que Jésus vienne, il faut lâcher nos fausses sécurités. Il faut lâcher tout ce qui fait barricade, toute la façade. Et plutôt que de voir Jésus, d'accueillir son regard, de répondre à sa demande d'entrer en relation avec lui et de le laisser aller au plus profondément de là où ça fait mal, de là où on a besoin d'être guéri. Et si on n'a pas ce genre de problème-là, eh bien, c'est bien de se souvenir qu'on est tous ou qu'on a tous été des perdus. Que si on n'avait pas été touchés par le Seigneur, on serait tous encore perdus. Et des fois, quand on est chrétien, et quand on est chrétien depuis longtemps, ou même pas forcément depuis longtemps, mais on a trouvé le salut, on se dit, c'est bon, j'ai ma clé pour le ciel, c'est OK, je suis sauvée, je suis convertie, je suis chrétienne. Et c'est presque, on s'enorgueillit presque, parce que des fois, on croit qu'on a tout compris à cause de ça. On pense qu'on a mieux compris que les gens qui sont juste en dehors des murs de l'Église. Mais c'est faux. Mais c'est faux, on n'est pas meilleur qu'eux, on a bénéficié d'une grâce qu'il faut aller distribuer. Mais à la base, on est autant perdus les uns que les autres. On était perdus autant les uns que les autres. Et c'est un sujet éternel de reconnaissance que le Seigneur a plongé sa main, il l'a plongé dans la fosse de destruction dans laquelle on était. Il a plongé sa main dans la mouise, puis il nous en a sortis pour nous accompagner en nouveauté de vie. Alors, où est-ce que tu te situes aujourd'hui? Est-ce que tu es dans la foule? Est-ce que tu es à ton bureau en train de faire les comptes de tous ces collecteurs d'impôts qui te ramènent une partie de les commissions? Est-ce que tu es dans un sycomore? Ou est-ce que tu es en cœur à cœur, en face à face, dans ta maison avec Jésus? Est-ce qu'il se pourrait que Jésus te dise, je sais bien que tu as tel problème, mais tu n'as jamais voulu que je m'en occupe? Est-ce qu'aujourd'hui tu es d'accord que j'entre dans ce problème-là? Je vous invite à prier. Je vous invite à prier et je vous invite aussi, si vous êtes concerné, si vous voulez que Jésus entre dans un problème particulier, de le manifester. C'est une façon de faire comme Zachée. Zachée, lui, il n'a pas eu peur du regard. Il a couru comme un gamin et il est monté dans un sycomore. Alors, si quelqu'un aimerait que le Seigneur le touche, est d'accord de lâcher prise et accueille Jésus, ben, moi, je vous propose que ce soit à Nors-en-Cèze, que ce soit à la maison, soit de vous lever, soit de tendre vos mains, soit de mettre vos mains sur votre cœur. Faites un de ces trois gestes, soit de vous lever, soit de tendre vos mains, soit de mettre vos mains sur votre cœur. Quelque chose qui soit visible pour Dieu et pour les hommes, nous sommes témoins. C'est comme une confession de foi. Je veux aujourd'hui que quelque chose change et j'accueille mon Jésus là-dedans. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur parce que tu es venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tu es venu nous chercher. Tu es venu nous chercher pour pouvoir entrer dans nos problèmes, pour pouvoir aller dans ces endroits tellement profonds, ces endroits où il y a des ténèbres, ces endroits où il y a de la douleur, où il y a de la frustration. Ces endroits où il y a des choses qui ne sont encore pas droites et qu'on n'arrive pas à lâcher. Ces fausses sécurités, ces mensonges qui nous tenaillent, qui nous font croire des choses et qui nous maintiennent dans des situations qui ne nous satisfont pas. Jésus, merci. Merci parce que tu es venu. Tu n'as pas eu peur de te salir les mains. Tu n'as pas eu peur de t'engager pleinement. Tu n'as pas eu peur de te donner pleinement. Et ce matin, je te demande de poser ton regard sur chacun d'entre nous, mais je te demande de poser ton regard en particulier sur les personnes qui sont debout ou qui ont les mains levées ou qui ont les mains sur leur cœur. Je te demande, Seigneur, d'avoir un vrai cœur à cœur, que chaque personne puisse entendre ton appel. Descends, hâte-toi de descendre. Il faut que je demeure dans ta maison. Je te demande de rendre chacun capable de t'accueillir. Fais cette œuvre, Seigneur. Fais cette œuvre, parce qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont besoin. Il y a des personnes qui ne savent même plus comment faire. Montre-leur comment simplement lâcher prise, simplement comment croire que c'est une œuvre que tu fais, parce que c'est ta parole qui le dit. Seigneur, qu'on ne fasse pas de toi un menteur, parce que tu n'es pas Dieu pour mentir. Mais ta parole est vraie. Alors je te demande de rendre chacun capable de saisir ta parole. Et dans le nom de Jésus-Christ, je brise les esprits de mensonges qui sont sur des mentalités. Il y a des personnes ici qui ont des mensonges qui leur font croire que ce n'est pas possible, qui leur font croire que ça a duré depuis tellement longtemps, que ça ne marche pas. Je brise le pouvoir des mensonges. Je brise le pouvoir des mensonges dans la vie des gens qui croient ces choses-là. Je brise le pouvoir de ces paroles, le pouvoir de ces choses qui tournent dans la tête. Et j'invoque la puissance du sang de Jésus-Christ qui libère. Que les jougs tombent maintenant, que les jougs soient brisés dans le nom de Jésus-Christ, que ceux qui sont encore liés par des mauvais esprits soient délivrés dans le nom de Jésus-Christ. Je brise le pouvoir du malin dans la vie de mes frères et sœurs qui sont en train d'entendre ce message et cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la puissance du sang de Jésus en chacun d'entre nous. Merci Jésus, remplis-nous encore et que ton Saint-Esprit remplisse chacun. Je te demande de restaurer encore les cœurs de chacun. Restaure l'âme de chacun là où ça a été meurtri, là où ça a été malmené. Que ta paix vienne, que ta guérison vienne, que ta victoire se manifeste, que ton royaume se manifeste dans la vie de chacun. Seigneur, je te demande de prendre toutes ces personnes par la main et de les conduire sur ce rocher qu'elles n'ont encore pas pu atteindre. Conduis-les, c'est toi qui les conduis, elles n'y vont pas seules. Elles ne peuvent pas, ça ne vaut même pas la peine d'essayer d'y aller seules. Mais toi, c'est toi qui leur prends la main. Conduis-les sur ce rocher qu'elles ne peuvent atteindre. Avec toi, elles vont atteindre ce rocher. Merci Seigneur, je bénis ton nom, je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu t'es donné entièrement, tu t'es sacrifié entièrement, tu as fait descendre la divinité du ciel pour nous rejoindre, mais tu es là, tu es présent, tu remplis les cieux et la terre de ta présence et nous sommes en toi et tu es en nous, tu es avec nous, gloire à toi. Gloire à toi, merci pour ta puissance de vie, merci pour ton sacrifice, merci pour ta mort et ta résurrection, merci pour ta victoire, merci pour ton obéissance, merci pour ta fidélité, merci pour la nouveauté de vie. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.